Je vous invite à prendre vos Bibles et j'espère que vous avez devant vous une copie de la parole de Dieu. Et trouvez avec moi encore le premier chapitre aux Colossiens. Nous allons considérer une prière ici au verset 9 et 10 pour la croissance de l'Évangile. L'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, est quelque chose de si simple qu'un enfant peut comprendre les principes fondamentaux de Christ, de sa personne, de son œuvre, du péché de l'homme, de la foi, de la repentance. Et pourtant, l'Évangile est si riche que ses racines remontent à l'éternité passée, que ça implique un Dieu trinitaire, que ça implique le Fils de Dieu qui est dû prendre l'humanité pour devenir homme. Et c'est un message d'espérance que nous avons en Jésus-Christ qui est si beau et si fort et si puissant. Et Paul, l'apôtre Paul, communique très clairement dans ses écrits, inspirés de l'Esprit, que c'est uniquement l'Évangile qui est l'espoir pour un monde perdu. C'est cette nouvelle, c'est cette bonne nouvelle qui est la seule nouvelle qui peut vraiment sauver l'homme perdu et le sauver pour toute l'éternité et le sauver corps, âme et esprit, en rétablissant la relation entre lui et son Créateur. Mais quel est le rôle que nous pouvons avoir dans la croissance de l'Évangile? Quand Paul apprend que l'Évangile a pris racine dans la vie des Colossiens, il rend grâce à Dieu. Regardez le verset 3 du chapitre 1, Colossiens 1, 3, il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il rend grâce à Dieu et il fait quoi? Il prie. Il dit, et nous ne cessons de prier pour vous. Et nous pouvons même dire que sa reconnaissance envers ce qu'il voit Dieu en train de faire alimente sa prière. C'est pour ça, verset 9, regardez le verset 9, il dit, c'est pour cela. Vous voyez, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec foi, persévérant et patient. C'est Dieu qui nous rend donc avec joie, persévérant et patient. Alors ça c'est la prière, mais je veux commencer en notant plusieurs liens qu'il y a entre la première partie du chapitre 1 et la prière qui commence au verset 9. Regardez dans vos Bibles, au verset 4, il parle du fait qu'il a été informé de votre foi. Vous voyez? Et puis au verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés. Ça, c'est un lien. Et puis il dit, depuis le jour au verset 6, et cette phrase est répétée, nous venons de le lire au verset 9. Au verset 6, il dit, vous avez entendu et connu. Et au verset 9, il dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance. Au verset 10, il dit, croissant par la connaissance. Et nous trouvons au verset 6 le fait que l'évangile porte du fruit. Et ça croît. Et puis au verset 10, qu'il doit continuer à porter du fruit et progresser. Vous voyez ça au verset 6? Il porte des fruits et ça croît. Et puis verset 10, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant. Nous voyons aussi un lien en verset 3 où il rend grâce et indique que les croyants doivent continuer eux-mêmes à rendre grâce au verset 12. Dieu le Père est mentionné au verset 3 et encore au verset 12. Les saints sont mentionnés dans les deux parties de ce chapitre. Il y a aussi le lien de l'Esprit Saint. Ils sont animés d'un amour par l'Esprit, verset 8. Et Paul prie qu'ils connaissent cette sagesse et intelligence spirituelle. Spirituelle, une référence au Saint-Esprit, verset 9. Nous voulons donc voir la croissance de l'Évangile, mais la prière est vraiment la part importante que nous avons dans la croissance de l'Évangile. Nos prières font partie de la croissance de l'Évangile dans le monde. Et donc, nous allons considérer d'abord le contexte et puis le contenu de cette prière. Alors, quel est le contexte? Alors, je vous montre ceci. Je vous le montrerai à plusieurs reprises. Le contexte de la prière, c'est une prière pour les vrais saints en Jésus-Christ, motivée par une confiance dans la puissance de l'Évangile et avec pour objectif une croissance visible dans leur vie. Vous n'avez pas besoin de noter tout. En même temps, on va commencer avec cette première ligne. Le sujet, ça c'est, nous donne ici le sujet de la prière. Pour qui prie-t-il? Bien, le sujet de la prière, c'est une prière pour les vrais saints en Jésus-Christ. Regardez le verset 1, s'il vous plaît, dans vos Bibles. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, verset 2, ô saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Donc, Paul écrit à des vrais saints et fidèles frères et sœurs en Jésus-Christ. Ce sont des personnes, des saints, ce sont des personnes mises à part par Dieu le Père, en Dieu le Fils, gardées en lui, et c'est à eux qu'il prie. Alors, nous voyons plusieurs choses. Nous voyons d'abord l'attestation ou la preuve de ce salut. Comment sait-il qu'ils sont vraiment des saints en Jésus-Christ? Il le dit au verset 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier Dieu pour vous, ayant été informés de votre, quoi? Verset 4. De votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Ça, c'est, si vous voulez, l'attestation du fait qu'ils sont vraiment saints. La foi en Jésus-Christ et l'amour pour tous les saints. Voici deux évidences importantes d'un vrai chrétien. Votre foi en Jésus-Christ, votre amour pour tous les saints. Et si vous vous demandez d'où vient cet amour pour tous les saints, regardez le verset 8 dans la Bible. Et là il parle d'Épaphras, nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc nous ne voyons pas seulement l'attestation ou la preuve qu'ils sont sauvés, nous voyons l'application de ce salut. De quel amour l'Esprit vous anime. C'est l'Esprit Saint qui applique le salut à leur vie. C'est la même construction ici au verset 8 quand Matthieu 22-43, quand Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit ?» C'est la même phrase. L'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, il continue, donc il parle de l'inspiration du texte quand David écrivait, il était animé par l'Esprit et l'Esprit anime dans ses païens à Colosse un amour pour tous les saints. Nous voyons donc ici le rôle du Saint-Esprit à appliquer le salut à l'âme. Jésus avait dit à Nicodème, vous connaissez, j'imagine ce passage en Jean 3, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » C'est l'Esprit qui qui donne cette nouvelle naissance que nous appelons la régénération. Et ici, nous voyons spécifiquement son rôle d'appliquer quoi? L'amour. L'amour au cœur pécheur et puis l'animer à aimer Dieu ainsi que les frères et les sœurs. Romains 5, verset 5, dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par qui? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi? Le fruit que produit l'Esprit en nous, c'est, la première chose, c'est l'amour. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc nous voyons l'attestation ou la preuve qu'ils sont des vrais saints en Jésus-Christ, la foi, l'amour. Nous voyons l'application de ce salut à l'âme par le Saint-Esprit, plus particulièrement ce qui concerne leur amour. Et puis nous voyons l'annonce aussi de ce salut. L'annonce de ce salut. Verset 5, regardez le verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, nous y reviendrons à cette partie, mais ce qui suit. Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Alors, comment est-ce que les Colossiens ont pu faire partie de la famille de Dieu? Entre autres, parce qu'ils ont connu, verset 5, la parole de l'évangile qui est la parole de vérité. Vous voyez, la Bible elle-même nous dit que l'évangile est la parole de vérité. Et puis regardez au milieu du verset 6. Il dit, le jour où vous avez quoi? Entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Vous voyez les différents éléments dans l'annonce de l'évangile à ces païens? Il fallait qu'ils entendent, il fallait qu'ils connaissent la parole de la vérité. Cette parole de la vérité est énoncée dans ce qu'il appelle ici la parole de l'évangile. Et cette parole de la vérité, la parole de l'évangile, leur a été apportée par un fidèle ministre de Christ, du nom d'Épaphras. C'est cela dont nous parle Romains 10, versets 14 et 15, quand il dit « Comment donc invoqueront-ils » Pensez aux Colossiens. « Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, il n'y a pas d'Épaphras qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, le sujet de la prière, ce sont ces saints en Jésus-Christ. Et puis, dans le contexte, notons deuxièmement la motivation de cette prière. Nous considérons toujours le contexte, hein, nous avons vu le sujet, c'est les saints, et puis la motivation de la prière. Il est motivé par une confiance dans la puissance de l'Évangile. Motivé par une confiance dans la puissance de l'Évangile. C'est ça qui anime sa prière. Regardez au verset 3. Encore, il dit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Voyez la foi qu'ils ont et en raison de l'espérance qui vous est réservée, ou une autre traduction dit, est en vue de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Ou d'autres disent carrément, c'est une foi dans l'espérance. C'est l'espérance, c'est une pleine assurance des choses à venir. C'est ça qui nourrit notre foi. C'est pas la foi qui nous donne une espérance. Je n'ai pas une espérance puisque j'ai la foi. Non, j'ai la foi parce que il m'est donné une espérance. On ne peut pas avoir une foi dans le vide. On ne peut pas croire rien. Il faut une espérance, il faut cette promesse de la part de Dieu et leur foi est motivée par cette espérance qu'ils ont en Christ. Mais la prière de Paul est aussi motivée par cette espérance qu'il a, qu'ils ont devant eux cette joie à venir. Non, la motivation de la prière, c'est une confiance dans la puissance de l'Évangile. Et ceci est très clair au verset 6. Regardez le verset 6. « Il ». Et le « il » renvoie à l'Évangile qu'il a mentionné dans le verset précédent. Il va parler de l'Évangile presque comme une personne ici au verset 6. « Il est au milieu de vous et dans le monde entier. » Qu'est-ce qu'il fait cet Évangile ? « Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Vous voyez, l'Évangile porte du fruit, l'Évangile s'accroît aussi parmi vous. Ils voient l'Évangile en train de porter du fruit dans leur vie. Ils voient une différence qui est faite dans leur vie. Ils voient qu'ils ont entendu l'Évangile, que l'Esprit l'a appliqué à leur vie. Ils voient qu'ils ont entendu, connu et reçu la bonne nouvelle. Ils voient que l'Évangile est en train de porter maintenant du fruit dans leur vie. Ils voient, verset 8, que c'est l'Esprit qui les anime. Et c'est pourquoi, verset 9, tout ça lui mène au verset 9. C'est pour ça. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier. Vous voyez, la motivation derrière la prière, c'est cette confiance qu'il a dans la puissance de l'Évangile. C'est pour cela qu'il va prier. La prière n'est pas motivée par une incertitude. La prière est motivée par une certitude. Et c'est la même chose en Philippiens chapitre 1. Vous n'êtes pas très loin, hein, Colossiens, Philippiens, Colossiens. Donc juste avant Colossiens et Philippiens chapitre 1, regardez le verset 6. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. Et il donne une preuve, l'amour qu'il a pour eux et aussi la participation qu'ils ont dans la grâce que lui-même connaît. Donc, c'est une certitude, il dit, je suis persuadé de ces choses. Et cette assurance le pousse à faire quoi ? Regardez le verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. C'est le même thème qu'en Colossiens. La motivation de la prière, nous voyons, c'est cette confiance dans la puissance de l'Évangile dans leur vie. Alors, le prédicateur Chrysostome, qui prêchait au 4e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est avant même la naissance des pasteurs Albert et Jean-Pierre. Nous sommes au 4e siècle. Et il donne l'illustration d'une course. Et il dit que très souvent, on applaudit, on encourage, on exhorte les athlètes qui sont prêts, il dit ça, qui sont prêts à saisir la victoire. Donc, vous voyez, ils sont presque au bout et on à crier encore plus fort, à applaudir encore plus fort, parce qu'ils sont presque là. On ne se dit pas, bon, ils vont arriver, on n'a plus besoin de les encourager. Non, on les encourage encore plus en voyant qu'ils ont presque la victoire devant eux. Et c'est un peu la prière ici. Nous concevons souvent la prière comme une manifestation syndicale. On va aller devant Dieu, et c'est notre façon de faire connaître notre volonté dans la cour du ciel et puis d'attendre une réponse favorable de la part de la hiérarchie céleste. Et les grèves en France prennent fin souvent lorsque les grévistes soit obtiennent ce qu'ils veulent, soit lorsqu'ils réalisent qu'il n'y a plus d'espoir d'obtenir ce qu'ils veulent. Donc c'est plus la peine de faire la grève. Et nous pensons souvent à la prière comme ça. Et c'est vrai que la prière consiste en partie à faire connaître mes besoins à Dieu. La Bible le dit. Jésus nous apprend à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et parfois, comme Paul lui-même, il a pris, après avoir demandé trois fois, à trois reprises, qu'une épine dans la chair soit enlevée, nous devons cesser de demander que le problème soit résolu et recevoir plutôt la grâce que Dieu donne pour le supporter. Mais la prière est beaucoup plus que cela. La prière est avant tout une collaboration avec Dieu. Quelles sont les premières requêtes que Jésus-Christ nous donne à prier? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand nous apprécions que cet aspect de la prière, que c'est une collaboration avec Dieu, la certitude de la fin motive en fait nos prières. Quel chrétien doute que le royaume de Dieu vienne? Aucun. Nous sommes tous certains que le royaume de Dieu va venir. Mais notre part est de prier pour cela. 2 Corinthiens 1, versets 10 et 11, écoutez, je vais vous lire. Il dit, c'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore. Certitude absolue, nous avons cette assurance. Et vous y contribuez en priant pour nous. Vous voyez, il y a l'assurance, mais vous contribuez quand même en priant pour nous. La certitude, en fait, motive la prière. Très belle phrase en Ézéchiel chapitre 36. C'est dans ce passage où il y a la plus belle promesse de l'envoi de l'Esprit, où Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. C'est la seule promesse de ce type dans l'Ancien Testament. Et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observiez mes pratiques et mes lois. Et donc, dans ce contexte de très large et grande promesse que Dieu leur donne, Dieu dit dans ce même contexte, écoutez le verset 37, voici ce que dit le Seigneur. Une fois encore, je me laisserai fléchir par la communauté d'Israël pour agir en sa faveur. Il dit, je promets toutes ces choses, mais je vais vous laisser me fléchir par vos prières. Jonathan Edwards, il décrit le réveil qu'il a connu dans sa région au XVIIIe siècle. Et il dit ceci, quand Dieu a quelque chose de très grand à accomplir pour son Église, c'est sa volonté qu'elle soit précédée par les prières extraordinaires de son peuple, comme le manifeste Ézéchiel 36, verset 37, le verset que je viens de lire. Et il est révélé que lorsque Dieu est sur le point d'accomplir de grandes choses pour son Église, il commencera par déverser de manière remarquable l'esprit de grâce et de supplication, ce dont parle Zacharie 12, verset 10. Donc, le sujet de la prière, c'est l'essence, Jésus-Christ. La motivation de la prière, c'est ces certitudes que l'Évangile maintenant est à l'œuvre en eux. Et puis, troisièmement, l'objectif de la prière. L'objectif de la prière, c'est une prière pour de vrais saints, Jésus-Christ, motivée par une confiance dans la puissance de l'Évangile, avec pour objectif de voir une croissance visible dans l'Évangile. L'objectif, c'est de voir une croissance visible dans leur vie. Regardez de très près le verset 9 et 10. Il y a des parties où peut-être vous voulez souligner. Je vais les souligner en disant, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez rempli, notez cela, de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Vous voyez ces images de rempli, entièrement agréable, toutes sortes de bonnes œuvres, fortifié à tous égards, toujours persévérant et patient. Je cite encore Chrysostome. Il dit que Paul leur montre ici sa charité pour eux et il leur fait entendre aussi qu'ils ne sont pas encore arrivés au but. C'est le sens de ce mot qu'ils vous remplissent. Voyez-vous ici sa prudence, il dit. Il ne dit jamais que tout leur manque, il dit partout qu'il leur manque quelque chose encore. C'est le sens de l'expression qu'ils vous remplissent. Il ne dit pas qu'ils vous donnent, car cette connaissance leur a déjà été donnée. Il dit qu'ils vous remplissent de cette connaissance, c'est-à-dire qu'ils perfectionnent cette connaissance. Il y a ici une réprimande légère et un éloge qui, n'étant pas complet, ne les engage pas à se négliger. C'est très sage ce qu'il dit ici. Paul est en train de dire, vous avez beaucoup de choses, mais vous n'avez pas encore tout. Vous avez encore du progrès à faire. Ça, c'est donc le contexte. L'objectif de la prière, c'est de pouvoir voir une vraie croissance visible dans leur vie. Voici donc le contexte de la prière. Et passons maintenant, deuxième partie de ce message, au contenu de la prière. Le contenu de la prière, c'est une prière pour un discernement spirituel qui façonne notre comportement de chrétien et ainsi procure le plaisir de Dieu. Voici ce qu'est la croissance dans l'Évangile. Nous allons regarder ces trois aspects. Croître dans l'Évangile, c'est mûrir dans la foi, n'est-ce pas? Et l'amour qui naît de l'Esprit, dans la vérité, c'est croître dans la foi et dans l'amour dont il a parlé au début du chapitre. Et cela signifie être transformé par l'Esprit de Dieu afin que nous ayons un certain état d'esprit et afin que nous ayons une connaissance de la volonté de Dieu qui suscite après en nous un discernement de ce qu'il veut et qui après sort après dans nos actions et dans notre vie. Cette compréhension donc n'arrête pas dans la tête, elle va susciter une manière de vivre. C'est ce qu'il dit au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc c'est une prière pour un discernement spirituel qui façonne après notre comportement de chrétien et puis qui procure le plaisir de Dieu. Il y a une croissance de l'Évangile qui est numérique, hein, quand il y a plus de gens qui viennent au Seigneur. Mais là, c'est une croissance comme la croissance d'un corps dans l'être, dans les chrétiens eux-mêmes. C'est pour cette croissance qu'il prie, que Christ soit formé en nous. Donc, nous allons diviser en trois parties. Prions d'abord pour un discernement spirituel. Ça, c'est la première chose. Prions pour un discernement spirituel. Il parle de ça au verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons, écoutez ici le cœur donc de la requête, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Avez-vous prié cette prière pour vous-même ou pour d'autres? Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Encore, ce n'est pas une nouvelle expérience. Mais c'est une croissance d'être rempli maintenant dans l'expérience que vous avez déjà eue. Tournez peut-être une seule page au chapitre 2. Colossiens 2, regardez le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Notre traduction le dit ainsi. Par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Vous vous trouvez pleinement comblé en celui qui est le chef. Donc après le salut, il ne faut pas quelque chose de nouveau. Nous avons déjà tout en Christ et nous sommes comblés nous-mêmes en Jésus-Christ. Il faut la même chose, mais il faut plus de la même chose. Il faut que nous soyons remplis maintenant de cette connaissance et intelligence spirituelle. Nous demandons ici que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et où se trouve cette connaissance? Mais regardez encore le chapitre 2, verset 3. Colossiens 2, verset 3. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Toute la connaissance se trouve en Jésus-Christ. Et vous avez besoin d'être rempli de cette connaissance. Et puis, regardez chapitre 3, verset 10, parce que c'est très important ici de noter le lien entre la connaissance et notre vie. La connaissance et notre vie. Colossiens 3, 10, il dit, « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle ?» Comment est-ce que l'homme nouveau se renouvelle ? Dans la connaissance. Vous voyez, dans la connaissance. Oui, mais quel type de connaissance ? La connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça parle de Christ. Nous sommes une nouvelle personne en Christ. Et donc la connaissance de Jésus-Christ. Connaître la volonté, pour revenir à notre texte, connaître la volonté de Dieu dans ce contexte n'est donc pas forcément ici une connaissance du futur. Pas, souvent on dit, je veux connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire je veux savoir ce que je dois faire dans un an. Si je dois prendre ce boulot, ou marier avec cette personne, etc. Mais ici, connaître la volonté de Dieu, c'est pas tellement connaître le futur, ce que Dieu veut pour nous dans le futur, mais c'est la connaissance de savoir discerner la meilleure façon de mettre en œuvre ce qu'il a déclaré dans les Écritures. C'est pour ça que j'ai choisi le mot « discernement ». C'est la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour après marcher d'une certaine manière. C'est de pouvoir bien comprendre ce que Dieu veut de moi dans ma vie actuelle. C'est pour cela que le psaume 143, verset 10, nous trouvons la prière « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Il dit pas « Enseigne-moi tous les caractéristiques de Dieu ». Non, « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Donne-moi une compréhension de ta parole que ton esprit utilisera pour développer mon discernement afin que je puisse vivre d'une manière qui te soit agréable. Une compréhension et une application plus approfondie de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il prie. Voici ce qu'est la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Est-ce que vous avez cela ? Est-ce que nous avons besoin de plus de cela, plus de compréhension pour pouvoir bien appliquer la parole de Dieu à nos vies? Ce n'est pas automatique. Il faut croître dans ces choses. Et ce n'est pas seulement le rationalisme non plus. Ce n'est pas seulement obtenir une liste de faits et de les mémoriser. C'est une connaissance. Qu'est-ce qu'il dit ici? Une connaissance et une intelligence spirituel. Nous avons besoin de la connaissance et c'est l'Esprit de Dieu qui souffle la vérité hein, dans l'inspiration de la Bible. Et nous avons besoin de l'illumination pour comprendre cette vérité et c'est l'Esprit de Dieu qui nous illumine. 1 Corinthiens 2, 14 dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Pourquoi ? Parce que spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, nous avons besoin donc de l'esprit pour pouvoir connaître la vérité. Il doit inspirer la parole. Il doit illuminer aussi notre compréhension. Et puis, nous avons besoin de puissance pour pouvoir vivre ces choses, les appliquer à notre vie. Et c'est encore l'esprit qui nous donne cette puissance. Galates 5, 16, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que l'esprit combat contre, en fait, notre chair. Donc, dans la connaissance, dans l'illumination, dans la puissance, c'est l'œuvre de l'esprit. Il faut que l'esprit agisse dans nos vies tous les jours. Il faut ouvrir nos cœurs à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est une connaissance spirituel où ça vient de lui, mais il est impliqué et il rend puissant aussi sa parole à nos vies. Ce discernement biblique ou scripturaire qui vient de la connaissance de Dieu et de sa volonté à travers sa parole mène quelque part. Où est-ce que ça mène? Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, on ne veut pas s'arrêter ici à la première partie. Ah, c'est une mauvaise feuille, je m'excuse. Nous voulons prier pour un discernement spirituel, mais qui façonne donc notre comportement de chrétien. Nous voulons prier pour un discernement spirituel qui façonne notre comportement de chrétien. Donc ce n'est pas une connaissance ici spirituelle pour étoffer, construire mon image de soi, je me sentir bien et intelligent. Ce n'est pas une intelligence pour faire de moi la police théologique qui corrige tous les autres. Ce n'est pas une intelligence spirituelle pour obtenir un laissez-passer au ciel. Il y a des gens qui pensent que grâce à toutes leurs connaissances, ils seront reçus au ciel. Ce n'est pas une connaissance qui enfle. La Bible parle d'une connaissance qui rend orgueilleux. Mais ici, c'est une connaissance spirituelle, un discernement qui sert à nous montrer quoi? Comment marcher nous-mêmes. Comment marcher nous-mêmes. Pas même faire marcher les autres, mais marcher nous-mêmes d'une manière digne du Seigneur. Vous voyez, toute cette intelligence, toute cette connaissance spirituelle est maintenant appliquée à marcher d'une manière digne du Seigneur. Sinon, c'est comme un avortement. Si nous acceptons la connaissance et refusons de le mettre en marche. Marcher est bien sûr une métaphore pour la vie. Marcher est une activité quotidienne qui occupe toute une journée. Vous marchez des milliers de pas chaque jour. Il y a certains qui comptent leurs pas pour savoir combien de milliers de pas ils font tous les jours. Et la vie chrétienne, comme le fait de marcher, est une vocation donc qui englobe notre travail, nos loisirs, nos repas, nos repos, notre ministère, notre éducation, nos divertissements, tout le reste. Ça englobe absolument tout. Nous prenons cette intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne, marcher toute la journée. Marcher est un terme souvent utilisé dans la lettre. Regardez chapitre 2, verset 6. Colossiens 2, verset 6. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, quoi ? Marchez en lui. Marchez en lui. » Chapitre 3, verset 7. « C'est ainsi que vous marchiez autrefois. » Vous voyez, il y a un changement maintenant. Et au verset 5, milieu du verset 5, il nous dit comment, hein ? On marchait avant dans la débauche, dans l'impureté, dans les passions, dans les mauvais désirs, dans la cupidité, etc. « Maintenant, vous marchez autrement. » Verset 5 du chapitre 4, il dit « Conduisez-vous », mais c'est le même verbe, « marchez avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps ». Ici, au verset 10, chapitre 1, il dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'en parle ici, sous cette idée de marcher, de mettre en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli de la connaissance de sa volonté? Qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli? Écoutez Éphésiens 5 et le verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Alors notez ce lien entre « enivré par le vin » et « rempli par l'esprit ». L'image, les enfants, si vous pouvez imaginer dans vos têtes deux images. La première image, c'est un verre qui est rempli d'eau. Le verre est rempli. Mais ça, ce n'est pas vraiment ce dont il parle ici quand il dit être rempli de l'esprit. Il faut plutôt imaginer un voilier, un bateau avec des voiles, et les voiles sont remplies de vent, ils sont remplis d'air, et ce vent va maintenant pousser le bateau. C'est ça l'image d'être rempli par le Saint-Esprit, c'est d'avoir nos voiles bien ouverts et bien remplis par le Saint-Esprit, en fait, qui nous pousse. Rempli de vin veut dire être contrôlé par le vin. Rempli donc de l'Esprit veut dire être contrôlé par l'Esprit. Vous savez ce que c'est d'être rempli de colère, par exemple, c'est être contrôlé par la colère. Et donc, dans le langage du Nouveau Testament, être rempli signifie être contrôlé par. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes contrôlés. Donc, c'est cette connaissance spirituelle qui nous contrôle et qui nous pousse à marcher d'une certaine manière. Et quel sera le résultat? Quel sera donc le résultat? Regardez verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc nous prions pour un discernement spirituel qui façonne après notre comportement de chrétien. Nous devons prier que ça ne bloque pas ici, que ça arrive jusqu'ici, dans notre marche. Et tout cela pour pouvoir plaire à Dieu. C'est une prière, donc, pour un discernement spirituel qui façonne notre comportement de chrétien et ainsi procure le plaisir de Dieu. L'essence de la prière de Paul est que les croyants continuent donc, progressent, à développer un état d'esprit scripturaire qui est enraciné dans la vérité, en particulier la vérité de l'Évangile. Et que cet état d'esprit, cette compréhension spirituelle les contraignent, les poussent à marcher ou à vivre d'une certaine manière, c'est-à-dire digne du Seigneur, et que ce genre de vie, ce genre de marche ait pour résultat le bon plaisir de Dieu. Alors j'ai une question. À qui voulez-vous faire plaisir? Le raisonnement suit toujours le cœur. Comme avec Salomon, je ne vais pas parler de son exemple longuement, mais vous savez qu'il avait toute sagesse, hein, plus que tout autre homme, mais il a fini par suivre son cœur. Quand on aime quelque chose, nous pouvons toujours raisonner jusqu'à l'obtention de cette chose. On veut ce boulot, on va raisonner que c'est logique et bon. Nous voulons nous marier avec une certaine personne, on va raisonner que c'est la volonté de Dieu. Notre raisonnement suit toujours, en fait, notre amour. Et c'est pour ça qu'il parle ici de vouloir plaire à Dieu. Si vous commencez par ce désir, si vous pouvez dire avec Jésus-Christ, non, pas ma volonté, mais que la tienne soit faite, et ça vient d'un cœur sincère dans lequel l'Esprit vous anime de cet amour, cela va après modifier votre raisonnement et vous allez pouvoir avoir cette compréhension, cette intelligence spirituelle. Quand on aime quelqu'un, on veut lui faire plaisir. Et donc, si nous n'avons pas cet amour pour Christ, nous n'allons jamais avoir ce discernement. Alors les jeunes, je vous supplie, quand il y a des discussions sur ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire, regardez le comportement de ces personnes. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces personnes qui raisonnent d'une certaine façon avec vous? Où va leur cœur? Et c'est en regardant leur cœur et leur amour qu'on peut donner du poids ou non à leur logique, à leur raisonnement. Alors, qu'est-ce qui vous semble une vie réussie? Je vous donne deux options ici. Vous arrivez à la fin de votre vie et vous dites, waouh, je suis vraiment heureux de moi. J'ai pas de regrets, j'ai bien vécu ma vie. Et j'ai entendu plusieurs fois à la radio des gens dire cela à des artistes, etc., dit « Je suis ravi de la vie que j'ai pu vivre. » Ça, c'est une option. Ou vous arrivez au ciel après la fin de cette vie et vous entendez ces paroles. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Qu'est-ce que vous désirez entendre à la fin? Une vie qui vous semble réussie? Ou les paroles de votre maître qui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Si nous aimons nous-mêmes, nous allons vouloir plaire à nous-mêmes. Mais si nous aimons le Seigneur, nous allons être poussés par cet amour à vouloir plaire au Seigneur. Et cela risque de penser qu'il va pouvoir dire, devoir dire de nous autre chose que « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Alors ce n'est pas la fin, car il continue en donnant les caractéristiques d'une telle vie. Les versets 11, la fin de verset 10 et verset 11, et puis verset 12. Et cela, nous regarderons la prochaine fois, mais nous allons nous arrêter ici. Alors, je révise simplement, c'est une prière pour de vrai en Jésus-Christ, motivée par une confiance dans la puissance de l'Évangile, avec pour objectif de voir une croissance visible dans l'Évangile. Dieu veut voir en nous une croissance. Et les autres aussi doivent voir aussi une croissance dans l'Évangile. Et puis, c'est une prière spécifiquement pour un discernement spirituel, cette connaissance spirituel qui façonne après notre comportement, notre manière de marcher, et qui procure à la fin le bon plaisir de Dieu. Voici ce qu'est la croissance dans l'Évangile. Et je termine avec ces trois éléments incontournables. Qu'est-ce qui est incontournable pour cela, comme application? Il faut, bien sûr, la parole. N'a-t-il pas mentionné plusieurs fois la parole de vérité, la parole de l'Évangile qui vous est arrivée? Si la parole ne peut pas en nous, nous n'avons jamais cette connaissance. Il faut la parole. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Et après, il faut l'inverse. L'inverse, c'est quoi? Nous qui parlons à Dieu. Il faut la parole et il faut la prière, il faut la prière. Lis ta Bible, prie chaque jour, hein, dit le chant des enfants. Et il faut le Dieu trinitaire. La troisième chose, c'est Dieu, le Dieu trinitaire. Il faut la volonté de Dieu, le Père, hein, faut connaître sa volonté de Dieu. Il faut la grâce de Dieu le Fils, le salut qu'il nous offre si gratuitement. La bonne nouvelle, après tout, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de son œuvre. Il nous faut l'illumination, la connaissance, la puissance que donne l'Esprit de Dieu. Donc il faut la parole de Dieu, il faut la prière, il faut que Dieu lui-même soit présent et actif dans nos vies. Prions le Seigneur. Notre Père céleste, nous te prions au nom de Dieu le Fils, avec l'aide et dans la puissance de Dieu le Saint-Esprit, que tu prennes ta parole qui est une parole de vérité et que par ton esprit, tu la rendes fructueuse dans nos vies, que tu la fasses pénétrer jusqu'au fond de nos cœurs, que tu nous convainques de notre péché et que tu nous remplisses aussi d'un espoir dans ta grâce et dans ton amour que tu as pour nous, et que nous cherchions à croître dans l'Évangile. Nous admettons que souvent nous n'avons pas cette croissance parce que, comme tu dis, nous ne demandons pas. Aide-nous donc à être plus fidèles dans la prière, dans l'écoute de la parole, et à pouvoir marcher en soumission à ton esprit, rempli de ton esprit, pour notre bien, mais aussi pour ton grand plaisir. Amen.